Lucrèce, Virgile, Ovide, Prudence, Simon Chèvre d'Or, Jean Segond, Baudelaire ou Quignard, et une même langue, aujourd'hui, le latin vers la poésie, et inversement, avec Philippe Zé et Yves Hersan.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, la rencontre de la poésie et de la langue latine sur plus de 2000 ans. C'est le pari d'un tout frais volume de la Pléiade qui paraît chez Gallimard, sous votre direction, Philippe Zé. Et avec, entre autres, votre collaboration Yves Hersan. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là, même
bonjour.
À distance.
Bonjour.
Près de 2000 pages, un dispositif bilingue, un appareil de notes raisonnablement copieux, je dirais, pour un tel volume. Et des milliers de vers, ceux de Plaute, Terence, Cicéron, Catulle, Horace, Tibulle, mais aussi Gautier de Châtillon, Alain de Lille, Du Bellay ou Rimbaud, et même quelques anonymes. À qui s'adresse cette anthologie bilingue, Philippe Zé? Quelle fréquentation est-ce qu'on peut en attendre?
Et finalement, elle est assez ambitieuse. Hein. Elle s'adresse, dans mon esprit, à tout amateur de poésie, je dirais même à tout amoureux de poésie, puisque ce qui est contenu dans cet ouvrage, je le dis avec sincérité, ce sont des trésors. Des trésors, soit bien reconnus, étincelants, comme les extraits des grands poètes classiques, mais aussi des trésors moins connus, de quoi faire des découvertes. Il y a des fragments, des débuts de sa poésie qui font rêver. Enfin, il y a une réalité poétique extra polymorphe qui va dans tous les sens, dans tous les genres, avec tous les tons, et il me semble qu'elle est de nature à intéresser non seulement les latinistes, bien sûr, mais tout homme sensible au vers et au langage des muses, disons.
Alors, on va préciser tout ça, évidemment. Tous les latins, je dirais même tout le latin, hein, bien trop de poètes pour les évoquer tous. On s'attardera sur quelques-uns. Mais peut-être un mot sur l'entreprise elle-même pour commencer. C'est vrai qu'on a l'habitude de découper traditionnellement la poésie latine en trois gros morceaux, hein, trois gros blocs, le classique, le médiéval et puis celui de la Renaissance. Choisir, comme vous le faites, de faire courir la poésie latine sur 2000 ans, sans discontinuité, est-ce que dans votre esprit, c'était au fond corriger quelque chose ou en tout cas placer la poésie et avec elle le latin avant l'histoire?
À côté, en tout cas, il y a une façon historique, bien entendu, d'aborder chaque poème. Chaque poème a été composé dans un lieu donné, dans un temps donné, avec des références données. Et la tentation du commentaire, c'est d'abord de s'appuyer sur ces données-là, parce qu'elles sont faciles, qu'elles sont simples, qu'elles sont claires, et entre nous, qu'elles peuvent passer complètement à côté du phénomène poétique. Toutes ces explications autour des faits. Donc il s'agissait non pas d'insérer dans un ensemble préétabli tel poème, en disant c'est un poème médiéval, c'est un poème de la Renaissance, c'est un poème de la basse latinité, c'est un poème de préclassique, c'est un poème de contemporain. Et il s'agissait, dans notre esprit, parce que ce point de vue a été partagé par tous les collaborateurs, de présenter le poème tel qu'il est, et avec juste ce qu'il faudra préciser dans la paracritique, juste ce qu'il faudra de données annexes pour le situer et l'éclairage donc objectif. L'idée qu'il y a un flux continu de poésie qui s'exprime dans la langue latine, c'est ce qui après fait que l'on a renoncé au découpage traditionnel, poésie latine, poésie classique, vous les avez donnés, poésie du bas latin, poésie médiévale, poésie de la Renaissance, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est quelque chose qui est très important dans notre esprit, ne pas trop marquer la référence à l'époque historique, parce qu'il y a dans la poésie depuis formulé par Horace, n'est-ce pas, hein, et par tous les poètes de l'Antiquité et tous les poètes de tous les temps, sauf quelques peut-être spécimens contemporains, l'idée que le poème doit dépasser justement les conditions de sa propre création.
Alors justement, sans vouloir remettre de la coupe à mon tour, hein, mais je vais quand même y être obligée un tout petit peu, on ne connaît Catulle que par un seul texte, il reste 4 vers de Cornelius Gallus, hein, que vous citez dans votre préface, inventeur de l'élégie amoureuse, tant célébré par Virgile. Pour ce qui est du premier tiers de cette anthologie, donc qui concerne effectivement la poésie latine classique, comment est-ce que vous avez procédé? Ça veut dire on prend tout ou presque, hein, au vu de ces contraintes de sources, justement.
Si vous posez un problème évidemment essentiel, qui est le drame du malheureux qui se lance dans la conception d'une anthologie, n'est-ce pas? Qui est-ce que je prends? Qui est-ce que je laisse? Comment je procède? À l'intérieur de chaque œuvre, évidemment, quelle œuvre je vais choisir? À l'intérieur d'une œuvre un peu longue, quel passage je vais isoler? C'est un choix constant, permanent, et dont on n'est jamais vraiment très content.
Mais qui est un choix plus restreint pour ce qui est du premier bloc, pour ce qui est du latin classique, j'imagine.
Parce que... Oui, alors, vous avez raison. Pour ce qui est du latin classique, il faut dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas énormément de poètes. Nous en avons peu, même. Nous connaissons le nom d'un nombre considérable de poètes dont nous avons perdu les œuvres. Donc, ce qui nous reste, grâce aux copistes, grâce à une tradition, évidemment, à laquelle nous sommes extrêmement reconnaissants, ce qui nous reste est particulièrement précieux. Et je prends l'exemple de Gallus que vous avez cité. Gallus c'était un très grand poète, à l'évidence. Non seulement historiquement, parce qu'il est le fondateur de l'élégie amoureuse latine, mais par l'admiration dont témoignent ses contemporains, que ce soit Ovide qui le célèbre encore alors qu'il s'est déjà suicidé et qu'il est déjà donc disqualifié aux yeux du pouvoir. Ovide dit c'était un grand poète. Cet homme-là, nous avons 4 vers. Voilà. 4 vers, retrouvés d'ailleurs il y a une trentaine d'années seulement. Et ce qui reste de cette poésie classique latine, car un élément extrêmement précieux du seul fait que nous la possédions encore. Il se trouve que, en prime, ce sont des œuvres généralement géniales, de première grandeur, de première importance, que ce soit Lucrèce, que ce soit Catulle, que ce soit Virgile, que ce soit Ovide, bien entendu, ou même Lucain, ou même ceux qui sont considérés comme un peu postérieurs et un peu moins intéressants, que ce soit, par exemple, Juvénal ou Martial, un grand génie aussi. Toutes ces œuvres, donc, sont précieuses, et en réalité, dans mes choix, je n'ai écarté personne d'important.
Ouais, j'imagine.
En dosant, en quelque sorte, l'importance des extraits.
Alors, il reste peu, pas grand-chose, hein, Philippe Heuzé, évidemment, forcément, vous le dites. Et ça n'est pas seulement qu'il reste peu, mais c'est que, au fond, on connaît très peu de la plupart de ces auteurs. Je pense à Lucrèce, par exemple, hein, dont on ne sait rien ou presque. Qu'est-ce que ça change du rapport au poème? Parce que ça donne l'impression, en tout cas dans cette première partie de l'anthologie, qu'au fond, c'est une anthologie qui choisit le poème plutôt que l'auteur, la poésie plutôt que l'histoire, le plaisir plutôt que la connaissance. Et on a l'impression que le fait justement de ne pas avoir accès réellement à la biographie des auteurs, ou alors une biographie vraiment à trous, change fondamentalement la lecture du poème.
Et vous avez raison, vous formulez très bien les choses, n'est-ce pas? C'est ce qui est important dans cette histoire, dans cette présentation de la poésie. Je dis présentation car, dans mon esprit, c'est pas du tout une histoire de la poésie latine, justement. Mais ce qui est très important, c'est la poésie. Et la poésie, donc, comme chacun sait, il est difficile de parler. Et cette ignorance à l'égard des œuvres, normalement, devrait favoriser le contact envers les poètes et envers les auteurs et les conditions, devrait favoriser le contact avec eux. Il se trouve, je le dis avec simplement objectivité, il se trouve que ces ignorances-là ont incroyablement nourri le désir de combler les ignorances, et il y a des ouvrages considérables d'hypothèses pour savoir qui était qui a fait qui. Pour les anonymes, évidemment, c'est très important. Il y a un très beau poème de la fin de la latinité classique qui s'appelle « La veillée de Vénus », et on ne sait pas qu'il l'a, il est anonyme. Et alors, vous n'imaginez pas le nombre d'hypothèses qui ont été faites pour trouver l'auteur. Mais évidemment, trouver l'auteur, ça n'apporte pas un pouce de lumière sur la beauté du poème. Le poème se passe de sa paternité dans ces conditions. Et on peut considérer qu'en effet, cet état d'ignorance, quand il est pris au sérieux, quand on en voit les bénéfices, favorise l'accès direct, plus direct en tout cas, au poème et à la recherche des beautés qu'il est censé et qu'il veut exprimer.
Yves Ersan, cet état d'ignorance, vous le prenez très au sérieux, vous aussi ?
Le cas est très différent pour la poésie médiévale et surtout renaissante. Parce que l'ignorance,
qui est la poésie qui vous occupe, hein, je le rappelle. Hein, pardon.
Oui, je me suis occupé en effet d'une partie, la majeure partie de la Renaissance et en prime d'un poème étrange de Pascal Quignard. Mais à la Renaissance, pour revenir à votre question, l'ignorance dont vous parliez à l'instant, l'ignorance concernant les auteurs, est bien moindre. Et d'autre part, les textes qui nous restent sont beaucoup plus nombreux. La perte est sensiblement moindre. De sorte que le drame qui se pose à tout anthologiste se pose avec une cruauté particulière pour celui ou pour ceux qui traduisent des poèmes latins de la Renaissance, car ils ont un choix énorme. La production poétique latine des 14e, 15e, 16e siècles est considérable, de sorte qu'il a fallu non seulement éliminer des auteurs, mais choisir avec inquiétude et tourment dans l'œuvre, par exemple, d'Ange Policien, qui est peut-être le meilleur, le plus grand poète de son époque.
Alors, à propos de plaisir, justement, et de Quignard que vous évoquiez à l'instant, Yversan, Quignard, pour lui, explique que les mots latins sont comme les mots magiques du français. Qu'est-ce que c'est pour vous que le latin, Philippe Heuzé ? Qu'est-ce qui en ferait, si on s'en tient à Chateaubriand, le plus bel idiome de la Terre ? Qu'est-ce qui vous lie au latin ? Qu'est-ce que la beauté du latin pour vous ?
Ah, écoutez, c'est une question, au moins, très ambitieuse et très directe.
Et personnelle.
Oui, très personnelle aussi. Bon, dans l'aventure d'une rencontre avec une langue, il y a toujours des éléments biographiques. J'ai commencé. J'étais à une époque où on ne se posait pas de questions. Quand vous n'étiez pas trop mauvais, hop, on faisait le latin. Ben, le latin pour tout le monde. Et cette rencontre, depuis le premier jour, a été plutôt une source de joie et de bonheur. Je crois d'ailleurs que ce rapport scolaire avec la langue est vraiment décisif pour l'idée que les adultes se font après coup de cette discipline. Mais ça, c'est l'aventure. Et puis, bon, j'aimais les lettres, et j'ai fait du latin. Et puis, au bout du compte, j'ai eu la chance de pouvoir faire même une thèse sur Virgile. Alors, vous comprenez.
Et vous ne vous en êtes pas remis. Mais pour vous, à quoi tient la séduction du latin à proprement parler ?
Alors, lorsque on essaie de formuler avec un peu d'objectivité les choses, ça n'est pas toujours facile. Eh bien, il y a des éléments qui tiennent à la structure du latin et puis surtout, et aussi parallèlement, à l'usage qui en a été fait. Je voudrais dire les choses en deux mots. Lorsqu'on aborde cette question du latin, question encore débattue aujourd'hui et pas résolue, eh bien, il y a toute une topique des arguments que l'on invoque dans les deux camps, et un des arguments fondamentaux, c'est l'argument de la langue. C'est la langue mère, et aussi l'argument historique, n'est-ce pas ? Il y a derrière nous ce monde latin qui compte, on ne peut pas l'ignorer. Mais ce qui n'a pas été, même de mon temps, mis en évidence, c'est que c'est une langue magnifique. C'est la beauté de la langue latine. Et il se trouve que Chateaubriand le dit incidemment dans « Le génie du christianisme », c'est le plus bel idiome de la Terre. il répond à la question de savoir pourquoi on fait encore les prières en latin. Il dit, ben, c'est normal, lorsqu'on parle à Dieu, on utilise le plus bel idiome de la terre. Et il y a quand même un certain nombre, énormément d'ailleurs, de gens qui pensent que cette langue est belle, et tous les poètes, par définition, pensent qu'elle est belle. Et s'ils ont choisi le latin, c'est évidemment, à une époque où ils avaient le choix, c'est évidemment qu'ils préféraient la langue latine à leur langue vernaculaire, à leur langue personnelle.
Mais qu'est-ce que ça veut dire alors qu'une belle langue? Parce que c'est bien la question que je vous posais.
Ah là,
vous ne me répondez pas à la beauté de la langue.
Est-ce que on peut dire que c'est un concept solide, la beauté de la langue? La réponse est très simple. Tout le monde pense qu'il y a des langues belles et tout le monde pense qu'il y a des laides. Je ne prendrai pas l'exemple des secondes, mais il ne manque pas. Mais l'exemple de la beauté, tout le monde pense que l'italien est une belle langue. Et comme par hasard, c'est sans doute la langue qui est la plus proche que du latin que nous puissions entendre. Donc, mais il y a aussi des raisons objectives, et j'ai présenté dans l'introduction avec un peu de précision. Il y a le fait que le latin est une langue extraordinairement souple, plastique. Le latin peut organiser l'ordre des mots dans la phrase comme il l'entend, presque comme il l'entend. Il est presque libre. Et sur un exemple précis que je cite, sur l'exemple d'un vers qui est composé de cinq mots, deux noms, deux adjectifs et un verbe, ce qui serait en français le chef borgne monté sur l'éléphant Gétule, le chef borgne, je répète, monté sur l'éléphant Gétule, deux noms, deux adjectifs et une forme verbale, eh bien, il y a 120 façons de mettre ces mots en latin. Alors, vous imaginez, quand on a un matériau pareil et quand on a un sentiment d'artiste et de poète, les prodigieux effets qu'on peut en retirer. Et puis, il y a aussi cet autre élément sur lequel que j'ai présenté aussi, sur lequel j'ai un peu insisté, c'est l'imprécision du latin, et qui naît du fait que le latin n'a pas d'article. Or, l'article, évidemment, apporte une précision, l'article défini, l'article indéfini, ou l'absence d'article, n'est-ce pas, une précision qui est considérable quand on compare avec la forme latine à côté. Et la forme latine, donc, obtient un rayonnement potentiel considérable. Ce sont des raisons, à mon avis, objectives et tout à fait incontestables. Après, ces raisons-là ne font pas la poésie. Il faut les poètes.
Mais ça ferait, à vous entendre, Philippe Heuzé, ça ferait du latin une langue prédisposée aux poètes.
Ah, bien sûr. Je crois absolument. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des langues qui sont impropres à la poésie. Je ne sais même pas d'ailleurs, comme ne sachant pas la vraie nature de la poésie, je ne sais pas si la poésie tient en partie à la langue et aux sonorités. Tout le monde le dit, bien entendu, mais enfin, l'essence même nous échappe. Néanmoins, dans la catégorie des langues douées et objectivement repérables, évidemment, le latin vient au premier rang. Et c'est une des raisons supplémentaires pour l'aimer, bien sûr.
Cette souplesse, Philippe Heuzé, cette imprécision que vous soulignez dans votre introduction, ferait de cette langue, ferait du latin quelque chose comme une langue inabordable au traducteur, ce sont les termes que vous employez. Tout ou presque, à l'exception de Virgile et Ovide, a fait l'objet d'une nouvelle traduction dans ce volume. Vous êtes 6, si je ne me trompe pas, à avoir collaboré à cette édition. Est-ce que ça veut dire qu'il a fallu choisir une façon homogène de traduire le vers latin?
Alors, écoutez, ça, le problème de la traduction, évidemment, est énorme. Premièrement, premier principe, c'est impossible. Deuxièmement, tout le monde le fait. Voilà ce qui résume à peu près la situation. Et le plus souvent, chacun avec une petite idée derrière la tête, une idée qui conditionne la traduction. Et en particulier aujourd'hui, de nos jours, lorsqu'on considère les traductions qui ont été faites des poètes latins, je pense à Ovide, je pense à Virgile en particulier, et bien depuis 25 ans, il y a des théories et des techniques de traduction qui s'affirment et qui se pratiquent. La plus célèbre à son époque était celle de Klossowski, qui pensait qu'il fallait en français garder l'ordre des mots latins, parce que l'ordre des mots latins, il savait que l'ordre des mots latins, c'était une des beautés de la langue latine, et qu'il n'y avait pas de raison d'en priver la traduction française. Seulement, au bout du compte, il est avéré que cette traduction est une œuvre, fait une langue barbare et illisible, et que ça ne marche pas. Il y a des traducteurs qui pensent qu'il faut rendre un hexamètre latin par un alexandrin français, 12 syllabes en français, pour 13 ou 17, puisque l'hexamètre n'a pas de durée fixe, 12 ou 17 en latin. Langue extrêmement économe et sans article, ça veut dire que, concrètement, on sacrifie un nombre normal, considérable, important, des éléments du vers, lorsqu'il s'agit de grands poètes comme Ovide ou Virgile. Je pense qu'il est assez raisonnable d'estimer qu'on n'a pas le droit ni d'ajouter, ni d'enlever à ces poèmes. En conséquence, il y a quand même des conditions normales, je dirais, de traduction, celles qui s'équilibrent entre le respect du texte et le respect du lecteur, que le lecteur comprenne et que le texte soit respecté. Et d'un commun accord, les 6 collaborateurs de cet ouvrage, sans effort, sont arrivés à des traductions qui, à mon avis, dans l'esprit du lecteur, je vous pose la question d'ailleurs, mais sont assez homogènes.
Absolument. Sans effort, y versant.
Je reprends le mot d'équilibre que vient d'employer Philippe Heuzet, et qui est la tâche difficile du traducteur. Équilibre que nous avons cherché à obtenir entre, d'une part, la tentation à laquelle souvent on ne résiste pas, de conduire, comme disait Berman, le texte au lecteur, en l'enjolivant, en le francisant, en hypermodernisant, ou la tentation inverse, de conduire le lecteur au texte, tentation bien préférable. Mais il faut trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire éviter le piège de la modernisation abusive et éviter le piège de la joliesse, lorsqu'il s'agit en particulier de poèmes de la Renaissance, c'est très tentant, traduire à la Ronsard ou à la Rémy Bello.
Qu'est-ce que ça veut dire, traduire à la Ronsard?
Traduire à la Ronsard, c'est-à-dire traduire des poèmes latins d'auteurs de la Pléiade comme s'ils avaient été écrits en français par Ronsard. C'est une tentation à laquelle il faut résister parce qu'ils n'ont pas été écrits en français, ils ont été écrits en latin. Donc il faut prendre garde à ce mimétisme, ne pas rabattre le poème latin sur un poème français fantomatique qui serait derrière lui. Et je pense que dans l'ensemble, sans trop nous concerter, nous six avons recherché, et je crois dans le meilleur des cas obtenu, cet équilibre entre le respect dont parlait Philippe Heuzet à l'instant et le cadeau fait au lecteur d'atteindre un texte qu'il ne connaissait pas.
En 2000 ans, hein, c'est même un petit peu plus, oui. 2000 ans de poésie latine, la langue s'avère relativement stable. Hein, on va revenir bien sûr sur, malgré tout, les quelques détours ou les quelques changements, mais elle est malgré tout relativement stable. À quoi cela tient-il, d'après vous? À la poésie, peut-être, justement?
Mais elle est stable, oui et non. C'est-à-dire que il faudrait distinguer le cas de la poésie et le cas de la prose. Dans le cas de la prose, elle est beaucoup moins stable. La prose latine du Moyen-Âge ne ressemble pas beaucoup, pas assez peut-être, selon les renaissants, à la prose latine classique. En revanche, la poésie, le latin poétique, témoigne d'une beaucoup plus grande stabilité. Encore qu'il y ait des différences entre Pétrarque et les poètes du 5e siècle, bien entendu.
Bien sûr. Bien sûr. Alors justement, on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière ou au début même, Philippe Heuzet, un petit point d'histoire quand même, hein, puisqu'il y a bien un début, du moins un début à l'anthologie, commencé par Livius Andronicus, qui sont des fragments hein, d'Odyssée en vers saturnien. C'est commencé par quoi ?
Écoutez, ce n'est pas tout à fait par hasard, mais c'est assez significatif, je crois, que le premier fragment de poésie latine soit la traduction en latin du premier vers de l'Odyssée. C'est-à-dire que le premier auteur historiquement reconnu, il y a quelques traces, sans doute, de chants plus ou moins religieux dans certaines cérémonies, mais on ne possède pas. Le premier auteur de la poésie latine, disposition des œuvres, il se trouve que c'est un grec. Il s'appelait Andronikos, et c'est un grec de Tarente, et qui est esclave, qui a été affranchi par son maître Livius. Il a donc porté son nom, Livius Andronicus. Il a composé des pièces de théâtre et il a traduit, d'abord, dans un premier temps, l'Odyssée d'Homère. Il a traduit en vers saturniens. Les vers saturniens, c'était le premier système de poésie que les Latins pratiquaient. Et donc, c'est tout à fait significatif d'un fait majeur, évidemment, dont on ne peut pas ignorer et qu'il faut bien voir en face. C'est que la civilisation latine vient après la civilisation grecque, le rayonnement extraordinaire de la littérature grecque et de la poésie grecque. Les Latins l'ont ressenti, ils ont adoré, selon les époques, ils ont adoré les Grecs, ils les ont appris par cœur, et cette poésie grecque, elle est à l'origine de la poésie latine. À partir de là, bien entendu, il faut ne pas tomber dans le piège de peser l'une par rapport à l'autre, quelle est la plus belle. La poésie latine s'est développée avec beaucoup d'originalité selon les valeurs de sa civilisation, et elle est devenue la digne héritière de la poésie grecque. Voilà le sens, si vous voulez, de ce premier vers c'est assez émouvant d'ailleurs comme tous les fragments. Le passage des fragments dans le livre est un passage très touchant, parce qu'un fragment, ça fait vraiment rêver. On cherche tout autour.
Alors on va en venir évidemment au grand style, hein, à la belle langue, au vers latin tel que la Renaissance va l'adorer à l'extrême, hein, qui est donc cette poésie du 1er siècle avant notre ère, hein, de l'âge d'or de Cicéron, d'Ovide, d'Horace et bien sûr de Virgile. Un extrait de O Soci Neque Enim d'Adrien Willaert, compositeur du XVIe siècle, qui chante les vers de Virgile, les vers de l'Énéide pour être précis, hein, qui est le moment où Énée apaise la tristesse des cœurs. Virgile, dont l'anthologie donne des extraits, évidemment, hein, des bucoliques, des géorgiques et de l'Énéide. Virgile, hein, qui vous accompagne depuis toujours ou presque, Philippe Heuzé, beaucoup. Je crois que Rousseau ne l'aimait pas beaucoup, mais Claudel disait de lui qu'il était le plus grand génie que la Terre ait porté. Qu'est-ce qui le place pour vous au-dessus de tous les autres, et même peut-être d'Ovide, hein, si on lit entre les lignes de votre notice, de la Pléiade?
Ah, écoutez, je ne m'attendais pas à cette question, parce que je vous demanderais 8 séances d'affilée.
Toi. Alors, en quelques mots.
Écoutez, mon opinion à moi a peu d'importance. Il faut consulter.
Mais votre enthousiasme, oui.
Non, mais il suffit de consulter pendant 2000 ans la façon dont on a lu Virgile, la présence de Virgile chez les auteurs latins, parce que chez ses contemporains, chez ceux qui, dès que Virgile a existé, il a été une référence, il a été imité, et il est, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Lucain, qui veut faire une épopée contre Virgile, le cite en permanence, et même quand il fait contre, il l'imite à sa façon. Et puis, toute la suite de l'histoire, évidemment, Virgile est absolument partout, partout, partout. Quand on est, pardonnez-moi ce mot, je ne suis pas sûr de le mériter, mais spécialiste de Virgile, et on le voit passer en permanence, consciemment ou non, dans les œuvres et dans les poèmes des autres, évidemment, le Virgile médiéval, il faut, on est obligé de penser à Dante. Il n'y a pas de plus belle illustration que cette présence de Virgile dans l'accompagnement de la création. Et c'est partout. Alors, il y a des raisons pour cela. Si, personnellement, je pense que Virgile est plus grand que Ovide, à titre personnel, je sais que tout le monde. Il y a encore. Peut-être quelques opinions qui ne sont pas conformes à celles-là. Il y aurait des arguments pour le prouver. Virgile a exploité, a réussi dans trois genres différents qui sont généralement des spécialités qui font une carrière. Il a réussi dans le genre humble des bucoliques. Il a réussi magistralement pour un chef-d'œuvre admirable avec les géorgiques, dans ce qu'on appelle le genre didactique, et puis il a écrit l'épopée de l'Énéide, évidemment magnifique, et il occupe, vous voyez, le terrain des possibles littéraires de son temps. Et si je devais poursuivre la comparaison avec Ovide, il est certain que Ovide, évidemment, est beaucoup plus limité du point de vue générique. On ne peut pas entrer dans le détail des comparaisons. Quand on a la chance d'avoir de grands génies comme ceux-là, il faut se réjouir qu'ils soient ensemble et qu'on les possède et ne pas jouer à les opposer. Néanmoins.
Non, il ne s'agissait pas de les opposer. Il s'agissait de parler de votre Virgile à vous. Vous parliez de souplesse et d'imprécision tout à l'heure à propos de la langue latine. Oui. Sans doute que le génie de Virgile a aussi affaire avec la façon dont il est lié à cette langue. Lui qui écrivait vous peut éloigné de 10 mots un épithète du nom. Oui. Vous citez également le fameux Sunt Lacrimae Rerum, qui est donc dans le livre 1 de l'Énéide. Qu'est-ce qui vous ravit tellement dans ce vers ?
Sunt Lacrimae Rerum, alors là, Leeds a écrit un morceau de piano qui s'intitule Sunt Lacrimae Rerum. C'est une formule qui, comme dit Pascal, vous savez, le poète a bien placé la balle. Tout le monde a vu que c'était une formule extrêmement riche. Mais si on essaie de réfléchir, on arrive évidemment à une impasse à cause de l'ambiguïté du latin. Sunt lacrimae rerum, ça peut signifier soit il y a des larmes que l'on verse, sous-entendu, sur les choses, ou soit ce sont les choses qui pleurent, le monde qui pleure. C'est l'univers qui est envahi d'une tristesse ontologique, en quelque sorte. Et les deux sens en latin sont intimement liés et on ne peut pas dire c'est celui-ci ou c'est celui-là. Dans le contexte, on peut préférer une interprétation à une autre, mais dans l'histoire, l'aventure extraordinaire de ces trois mots, eh bien, elles vivent les deux sens avec les deux sens et elles rayonnent et c'est pour ça qu'elles deviennent une devise de la tristesse et de la mélancolie humaine. Sunt lacrimae rerum, voilà. Et c'est dit en trois mots, et je ne peux pas le traduire en français.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Poésie latine toujours avec vous, Philippe Zé, Yves Versant, Poésie latine et Virgile, on l'écoute en version originale.
Si quelides musae paolo maiora canamus, non omnis arbusta iuantum illesque mericae, si canimus siluas siluais in consulet dignae. Ultima cumae venitiam carminis aetas, magnus ab integros aeclorum nascitur ordo, iam redit et Virgo redeunt Saturnia regna, iam nova progenies caelo demittitur alto, tu modo nascenti puero, quo ferrea primum, desinet ac toto surget gens aurea mundo, casta fave lucina.
Un bref extrait d'une émission consacrée à Virgile, c'était sur France Culture en 1985, que je vous engage d'ailleurs à réécouter, elle est facile à trouver, et une lecture en latin, donc un extrait de la quatrième églogue ou bucolique. Est-ce que l'entendre permet de saisir autre chose de la langue ou du poème?
C'est évidemment, quand on n'est pas latiniste, je ne sais pas l'effet que ça produit. Si ça fait, si la mélodie ou le rythme qui n'est pas d'ailleurs respecté dans la lecture sont opératoires. Non, le vrai problème, je ne m'emprunte pas au lecteur, ne croyez pas cela. Mais il se trouve que le principe rythmique de l'hexamètre dactylique, de la poésie antique en général, qui repose sur le jeu des syllabes longues et des syllabes brèves, n'est pas respecté dans cette lecture, parce que ça devient un peu artificiel pour nous de le faire. Et n'est pas respecté non plus dans cette lecture le problème de l'accent qui porte sur chaque pied, et qui était un accent musical. Alors c'est assez difficile à nous, pour notre gosier, de monter la voix sans accentuer l'intensité du son. Ce qui fait que la réalité sonore d'un hexamètre de Virgile, telle qu'elle était prononcée par un latin, ça nous échappe un peu. Donc je ne croyais pas que je dis que c'était...
Je ne crois rien. Non, c'était juste pour savoir en fait ce que c'était que d'entendre le latin. Alors même si il ne respecte pas forcément le...
Entendre le latin, métrique. C'est forcément... Entendre. Mais le choix de la quatrième bucolique est excellent, puisqu'il faut parler, si on doit parler de Virgile, je dis d'un mot, c'est un des textes qui a évidemment considérablement articulé le passage du paganisme au christianisme, parce que cette quatrième bucolique qui dit que le monde va changer avec la naissance d'un enfant, et vous l'avez entendu, iam redit et virgo, voici déjà que la Vierge revient, les chrétiens ont dit, mais Virgile annonçait la naissance du Christ. Et du coup, Virgile devient un poète charnière entre le monde païen et le monde chrétien. C'est évidemment un phénomène culturel de première importance.
Alors, on écoutait tout à l'heure Virgile mis en musique par un compositeur du XVIe siècle. Alors, la Renaissance, voilà, faudrait-il dire plutôt l'humanisme va revenir au latin des anciens, vraiment à celui-là en particulier, au grand style en particulier. C'est le moment où Du Bellay, par exemple, écrit en 1549 dans sa défense et illustration de la langue française « La muse française est pour moi, je l'avoue, comme une épouse pour son mari, mais la muse latine, je l'honore comme une maîtresse. » Alors, je ne voudrais pas interpréter qui de la maîtresse ou de l'épouse Du Bellay aime le mieux, mais qu'est-ce que ça dit de l'époque quant au choix du latin à proprement parler? Que cette phrase-là que vous citez dans votre introduction à l'anthologie.
Oui. Écoutez, la question, je propose que vous la posiez à mon ami Yves, parce que il est très 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 compétent sur cette question.
Alors Yves Versant, qui est très très compétent.
Eh bien, je répondrai que Du Bellay et bien d'autres aiment à la fois leur épouse et leur maîtresse. C'est le cas exemplairement de Pontano, poète que nous avons essayé de mettre en valeur dans l'anthologie, Giovanni Pontano, qui était un humaniste du sud de l'Italie et qui a écrit à parts égales pour des maîtresses et pour son épouse à laquelle il était très, très attaché. Donc il ne s'agit pas de jouer la maîtresse contre l'épouse ou inversement, mais de cumuler. Dans une époque où, je le signale au passage, comme chacun sait, une tendance à l'érotisme se développe fortement et la poésie emporte naturellement la trace. Car la poésie de la Renaissance, quelle est au fond la différence entre la poésie latine de la Renaissance, dite néo-latine, bien que le terme soit pas très heureux, et la poésie classique? Il y a reprise et transformation. Reprise de tous les genres et de toutes les formes littéraires de l'Antiquité, hein, poésie lyrique, poésie narrative, poésie dramatique, poésie scientifique, poésie érotique, mais dans des directions et avec une intensité différente. Par exemple, Pétrarque reprend la forme de l'églogue ou de la bucolique, mais il l'oriente, par rapport à Virgile, il l'oriente dans un sens différent. Il fait intervenir dans sa poésie des considérations inédites, notamment historiques, personnelles, allégoriques. Et c'est un premier exemple de transformation. Un deuxième exemple serait l'utilisation de la poésie à des fins scientifiques, à des fins heuristiques, à des fins de recherche. Exemple, le poème Syphilis de Fracastor, qui est un des poèmes les plus étonnants de l'époque, consacré à la vérole et à ses désastres et à sa guérison éventuelle. Il y a aussi, je tiens à le signaler, à la Renaissance, un jeu critique avec le latin, ce qu'on appelle le latin macaronique, qui n'est pas un latin de cuisine, c'est pas du mauvais latin, c'est un latin subverti, et d'ailleurs subversif, fait par un poète que les Français connaissent sous le nom de Merlin Cocaille, et les Italiens sous le nom de Folengo, dont Rabelais s'est beaucoup inspiré. Et ce latin est un latin savant, en réalité, mêlé de langues contemporaines et de patois ou de jargon, qui a produit un texte très drôle, très difficile à traduire, soit dit au passage, qui mériterait une traduction intégrale nouvelle. Donc il y a reprise des anciennes formes, mais modification aussi, dans un sens très souvent physique. Une des choses les plus frappantes, me semble-t-il, concernant la poésie latine de la Renaissance, c'est qu'elle donne un sentiment corporel. Elle est étroitement liée au corps, au physique, au tactile, comme le prouve non seulement le poème Syphilis, mais par exemple Ange Policien, qui a écrit un poème extraordinaire sur une maladie probablement imaginaire, j'espère pour lui, qu'il avait, et qu'il a écrit dans des termes apocalyptiques qui mériterait une lecture intégrale.
Alors je suis désolée, hein, je vous coupe en fait, et j'imagine que les auditeurs auront compris que nous ne voyons pas, donc ce qui explique que je ne vois pas votre visage quand vous êtes en train de parler, donc pardonnez-moi de vous avoir coupé.
Non, mais j'étais en train de souffrir moi-même. J'avais vu mon visage crispé à l'occasion de ce que Policien peut dire de ce qu'il appelle la gale. C'est pas une gale en réalité, c'est bien pire, qui lui troue la peau et lui ronge les os.
Alors, le corps, ça n'est pas forcément toujours la maladie. On écoute.
Quand tes tendres bras se ferment sur moi très étroitement, et que suspendu, Néère, à mon cou, de moi tu rapproches ta gorge et tes seins, ton visage lisse, et qu'en unissant ta bouche à ma bouche, tu mords la première et, mordu, gémis, et darde encore ta langue craintive, et suce encore ma langue plaintive, m'offrant de ton souffle au parfum suave, la brise attendrie, harmonieuse et fraîche, qui ma pauvre vie nourrit, ô Néère.
Alors tu m'embrasseras, alors tu me baiseras,
Gilles Durand de la Bergerie.
Alors de ta lèvre tienne, tu pressoteras la mienne, lâchant ton âme dans moi et tirant la tienne à toi, Alors ta langue lézarde s'efforcera de passer.
Alors de quoi évoquer? C'est un extrait d'une vie, une œuvre signée Florence Margué en 2006 sur France Culture, réalisée par François Connac et qui évoque donc Jean II, qui est ce poète néerlandais du XVIe siècle, auteur d'un très célèbre livre, qui est le livre des baisers, dont vous donnez quelques extraits dans l'anthologie, qui regarde un peu du côté de Catulle d'ailleurs, mais qui à son tour a été beaucoup repris, beaucoup imité, notamment par Ronsard. Que dit le choix du latin pour un tel ouvrage, Yversant ?
Eh bien, il dit entre autres choses que le latin permettait une expression érotique beaucoup plus libre, encore, que l'italien ou le français. Et de fait, il y a dans l'anthologie quelques poèmes dont la publication intégrale serait problématique, enfin, aurait été problématique il n'y a pas si longtemps encore, tant ils sont osés. Et ils ont d'ailleurs été mis à l'index en leur temps, certains. Le latin donnait, à cet égard, une possibilité d'expression beaucoup plus large et permettait des audaces à laquelle deux ou trois, en tout cas, poètes du 15e et du 16e siècle se sont livrés effrontément. Par exemple, dans un poème intitulé « L'hermaphrodite ». C'est un aspect, ce côté physique et libre, touchant l'érotisme ou touchant la maladie, est, me semble-t-il, une des caractéristiques les plus intéressantes et les plus méconnues, peut-être, de la poésie latine de la Renaissance.
Mais ça veut dire que de choisir le latin, c'était aussi choisir de s'adresser à un certain public et d'en écarter un autre.
C'est vrai. C'est vrai, il y avait quelques femmes latinistes quand même à la Renaissance, mais le choix du latin impliquait effectivement un certain élitisme, on ne saurait le nier.
Alors le latin sera sérieusement, ou en tout cas un peu plus déclassé encore à la Révolution, un temps où forcément où la langue et la nation doivent s'accorder, et pardon de l'aborder de façon chronologique, mais le 19e siècle poétique va y revenir au latin par endroit, par la fenêtre presque, pourrait-on dire, c'est-à-dire beaucoup par les titres, mais pas seulement. Je pense à Baudelaire, qui figure dans l'anthologie, qui glisse un poème en latin dans les fleurs du mal, Franciscae Meae Laudes, un poème qui regarde du côté de la dernière décadence latine, bien plus que du côté de Virgile ou d'Ovide ou de Cicéron, donc il n'est pas forcément le latin du beau langage. Est-ce que c'est une façon de ne pas prendre le latin au sérieux, Philippe Heuzé, que ce poème de Baudelaire?
Je ne le crois pas du tout. Pour moi, je ne pense pas que ce soit du tout une fantaisie. Une fantaisie qui n'aurait pas grand prix poétique aux yeux de Baudelaire. Non. Je ne suis pas seul d'ailleurs à penser cela. Baudelaire aimait beaucoup le latin, premièrement. Son éditeur dans la Pléiade dit que, a relevé que le commentaire de son bulletin scolaire, c'était « Hormis le thème, les vers latins ne vaut pas grand-chose ». Donc, il était attiré par cela. Il multiplie les titres latins dans les fleurs du mal. Et puis, il s'explique. Il a choisi cette forme latine comme une hymne à un amour qui est tout ce qu'il y a de terrestre, mais en utilisant le langage mystique. D'abord, il est très, très caractéristique de voir que, le schéma métrique de ces vers, c'est exactement le schéma métrique du Dies Irae, des strophes de trois pieds, qui homorime, dont la dernière un pied de moins, 8, 8, 7, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Ça n'est pas du tout par hasard que Baudelaire choisit cela. Et puis il s'est expliqué, justement, il ne veut pas écrire de la poésie selon Virgile, il pense que c'est le latin de la décadence. À l'époque, le bas latin qui avait été méprisé aux yeux des puristes par des générations, en particulier à partir par les renaissants, eh bien, ce qu'on appelait avec une certaine condescendance le bas latin, est en train d'être réhabilité. Et il y a le livre de Rémy de Gourmont, qui s'appelle « Le latin mystique », qui le rétablit avec beaucoup d'éclat comme une langue magnifique, une langue poétique magnifique. Le livre de Rémy de Gourmont est un chef-d'œuvre pour essayer de comprendre justement cette beauté qui peut naître d'une poésie et d'une forme de langue particulière. Et ce livre a eu beaucoup d'écho et beaucoup d'influence.
Alors, puisqu'on parle de latin mystique. Du XVIIIe siècle, hein, un extrait du Lacrimosa du Requiem de Mozart, dirigé par Claudio Abbado au Festival de Lucerne. Alors, évidemment, il est aussi question dans cette anthologie des poètes chrétiens, hein, des Prudences d'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est bien dommage. Vous avez évoqué Rémy de Gourmont, hein, et son célèbre ouvrage Le latin mystique à la fin du XIXe siècle, ce qui peut-être nous amener tout doucement au dernier poème de cette anthologie, hein, qui est le poème de Quignard, parmi les êtres aériens, Inter aereas Phagos, un seul poème en latin. Le retraduire, Yves Versant, parce que je pense que c'est vous qui vous en êtes chargé, ou je me trompe ?
Non, vous avez raison.
Le retraduire, ce poème tout particulier qui date de 1976, je crois, hein, qui a été publié en 79. Est-ce que c'est aussi une façon de le lire, j'allais dire presque loyalement, comme s'il était d'abord un poème à traduire ?
C'est un poème qui a été composé dans des circonstances très particulières et certainement au moment où Pascal Quignard l'a composé, il ne songeait pas à sa traduction. Il l'a composé dans un état de dépression et sur des bases totalement différentes de celles dont nous avons parlé jusqu'à présent. Aucune métrique latine classique ou néo-latine n'est reprise ici. Le poème est structuré par sa disposition typographique, par ses blancs, par ses manques, par son silence, par son côté fragmentaire, qui du reste nous permet, dans ce volume, de boucler en quelque sorte la boucle par rapport aux poèmes initiaux, eux-mêmes fragmentaires, dont il a été question au début de l'émission. Et ce poème attire l'attention par la force poétique que Pascal Quignard redonne au latin. Parce que je me permets de revenir très brièvement en arrière, oui. Sans vouloir insister sur l'aspect historique qui n'est pas notre fil conducteur, je crois qu'il y a deux événements qu'il faut garder présents à l'esprit. D'une part, la perte du latin comme langue poétique au XVIIIe siècle. C'est une chute brutale. Et d'autre part, à l'inverse, vous y avez fait allusion, le maintien subreptice du latin au XIXe, chez des poètes, pas seulement Baudelaire, mais Victor Hugo, qui parle volontiers latin, qui donne des titres latins à son œuvre. Donc le latin a perduré. Il y a aujourd'hui encore des gens qui écrivent des poèmes en latin. Mais le cas de Pascal Quignard est totalement différent. Son latin, son poème latin, est un retour aux sources. Son latin est un revenant, un fantôme, si vous voulez, qu'il a convoqué ou qui s'est imposé à lui dans l'état de dépression que j'évoquais. Et lui-même, Pascal Quignard, dit avoir voulu, dans ce poème qui ne fait que quelques pages, avec beaucoup de blanc, Il dit lui-même avoir voulu retrouver, je le cite, la détresse antique, la beauté médiévale et la sauvagerie renaissante. Sauvagerie, c'est un mot tout à fait quignardesque. Parce qu'il s'agit pour le poète de fouiller dans des œuvres mortes, parce qu'elles sont mortes, morte est un terme valorisant ici, et de constituer avec du déjà dit, des fragments de textes, de prose, de poésie, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de composer quelque chose de radicalement inédit, assez énigmatique, et pour revenir à votre question, difficile à traduire.
Ça a été maintes fois traduit d'ailleurs, notamment par Emmanuel Hocquart.
Oui. Voilà. Il y a eu une édition précieuse qui comportait 7 traductions avant celle que vous trouvez maintenant dans la Pléiade. Alors, en ce qui me concerne, j'ai tenté, partant du principe que Pascal Quignard avait opéré un montage de déjà dit, de fragments de texte déjà dit, j'ai tenté de rendre, de manière plus proche de cette récupération, ma propre traduction. Je ne me suis pas écarté, je ne me suis pas laissé aller à des interprétations philosophiques de son poème. J'ai cherché au contraire à rester aussi près que possible des fragments de texte qu'il avait recueillis et montés. Il parle à ce sujet d'un cut-up, c'est un montage en réalité, de textes anciens, fragments de textes anciens qui produisent un sens radicalement nouveau et tout à fait ouvert.
Est-ce que vous l'auriez par heureux hasard devant vous ? Ou pas du tout ?
Ce poème ?
Oui. Savoir si vous pouviez éventuellement nous en lire un bref extrait.
Je peux, si vous me donnez quelques instants, le retrouver, puisque comme il est le dernier volume...
Je peux vous donner la page, même, si vous voulez.
Ça sera vous voulez bien me donner la page, ça m'évitera de me perdre.
1500... Comme ça donne une petite idée de la taille du volume. 1513, par là. 1500...
Oui, j'y arrive.
1509, ah. Pour être précise.
Alors, je suis à 1510, et me voici. Donc, le titre Inter Aerea Sphagos, parmi les êtres aériens, ce qui est une expression de Virgile. Virgile ne l'applique pas au être. Donc ça, c'est le jeu qui n'y a rien. Donc, parmi le lire en français, naturellement.
Si vous voulez, comme vous voulez. En français, oui.
Atterré. Alors, je précise avant de lire qu'il y a un jeu typographique entre les majuscules, les minuscules. Je ne peux évidemment pas en rendre compte oralement. Atterré. Je dis pleurant et rageur. En selve. En lieu sauvage, pas de silence, pas de tumulte. Atterrement. Il a tourné les yeux. Luxuriance. Lieu sauvage. Il coupe, à travers un silence sans parole, par un sentier escarpé, abrupt, obscur, offusqué d'un dense brouillard. Et c'est le logos. Bruit terrassant. Ni tumulte, ni calme. Mais le silence... les grandes frayeurs et les grandes colères. Tandis que nous parlons, déjà, fuite, coupe. Il coupe par un sentier escarpé dans les selves, à travers un silence sans parole. Et quand nous voulons commander silence, l'enserrer, nous condensons le souffle et l'expulsons en faisant résonner
chut. Hiver sans, je vous remercie infiniment, Hiver sans Philippe Heuzet. C'est la fin de cette émission. Merci. À tous les deux, aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de France Culture à la page de l'émission ou sur l'appli Radio France où vous pourrez également réécouter cette émission. La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous. Touch the sky.